RFI, 8h à Paris et à Rome, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Julien Coquelle-Rouen, bonjour à tous.
Dans ce journal, les catholiques du monde entier ont un nouveau pape.
Un pape élu rapidement hier à l'issue du quatrième vote. Le cardinal Prévost devient Léon XIV, originaire des États-Unis. Il a également la nationalité péruvienne et dès ses premiers mots, il a lancé hier un message d'unité et de paix.
À toute la terre. La pace sia con voi.
Voilà les premiers mots du pape Léon XIV. Nous serons à Rome et à Lima dans ce journal. Et puis édition spéciale à suivre juste après ce journal. Dans cette édition également, après les Européens hier, les Russes célèbrent aujourd'hui la reddition de l'Allemagne nazie. C'était en mai 1945. Événement commémoré pour la quatrième année consécutive dans l'ombre du conflit en Ukraine. Et puis les billets se sont arrachés en quelques minutes à peine. DJ Snake, le compositeur et producteur franco-algérien, en concert au Stade de France ce soir devant 80 000 spectateurs. Ce sera dans 3 heures, tout juste maintenant, la première messe du pontificat de Léon XIV après l'émotion de l'élection de Robert Francis Prévost hier, premier pape de l'histoire originaire des États-Unis. Léon XIV qui doit donc prononcer cette messe et après une prière depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. On vous retrouve, Véronique Guémard. Véronique, vous avez suivi hier en direct l'élection qui a finalement été relativement rapide.
Et oui, et la rapidité de cette élection en 24 heures seulement et 4 tours de scrutin, un de moins que pour le pape François, a surpris tout le monde. On a assisté à une grande clameur lorsque la fumée blanche s'est élevée de la cheminée. Peu après 18 heures, une foule s'était massée sur la place Saint-Pierre et tout à coup, ce sont des milliers de personnes qui ont déferlé sur les artères alentours, dont beaucoup de Romains d'ailleurs venus en courant pour découvrir et apercevoir celui qui est désormais aussi leur évêque.
Alors Véronique, que sait-on de ce nouveau pape ?
Alors Robert Prévost, âgé de 69 ans, est un homme discret. Il est souvent présenté comme le plus latino des cardinaux des États-Unis. Lui qui a vécu de longues années au Pérou comme missionnaire. Il a choisi le nom de Léon XIV, s'inscrivant ainsi dans les pas de Léon XIII, un pape de la fin du XIXe siècle qui avait promu la doctrine sociale de l'Église et l'attention particulière aux pauvres et aux ouvriers. Et lorsque le nouveau pape est apparu à la loggia de Saint-Pierre, la foule a lancé des cris de joie. Certains étaient en larmes et dès ses premiers mots, avant la bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, eh bien, il a fait référence à la paix, à l'unité de l'Église, appelant à marcher ensemble et à construire des ponts. Il a rendu hommage au pape François, dont il était proche, et dans la clameur de la foule, il a salué en espagnol son ancien diocèse de Chiclayo, au Pérou.
Véronique Guémard, en direct avec nous de Rome. Merci, le Pérou, pays cher donc à Léon XIV, décidément un pape du continent américain puisqu'il a les nationalités états-uniennes et péruviennes. Il a étudié et travaillé pendant plus de 30 ans, presque la moitié de sa vie au Pérou, notamment donc dans le nord, dans la ville de Chiclayo. De quoi rendre évidemment très fiers les Péruviens rencontrés hier à Lima par Martin Chabal.
Devant la cathédrale de Lima, certains sont venus avec le drapeau péruvien pour fêter l'élection de Léon XIV. Eliana n'en revient pas.
Yes, claro. Casi papa peruano.
Un pape presque péruvien. Il sait qui on est, il connaît nos souffrances et il sait ce qu'il nous manque.
Impossible de manquer l'information au Pérou tant cette élection a fait du bruit. Nancy a appris la nouvelle dans une église.
On était à l'église Saint-Pierre et à la fin de la messe, le prêtre a dit « Habemus papam » et on a su pour le pape. Imaginez-vous.
Pour elle, le pape est plus péruvien qu'américain au vu de son CV dans le pays. Elles n'en ont pas cru leurs yeux quand il a parlé en espagnol pour saluer son diocèse de Chiclayo lors de son premier discours après son élection. Margarita pense qu'avoir un pape qui a la nationalité péruvienne pourrait faire changer les choses dans le pays qui traverse une grave crise d'insécurité depuis quelques mois.
Il va changer les choses dans le monde, la guerre et tout ça, mais surtout la violence au Pérou, j'espère.
Les Péruviens attendent maintenant avec impatience la visite du souverain pontife, comme François l'avait fait en 2018. Martin Chabal, Lima, RFI.
Et beaucoup de réactions internationales, évidemment. Hier, Donald Trump a parlé d'un grand honneur pour les États-Unis. Emmanuel Macron a lui plaidé pour un pontificat porteur de paix et d'espérance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dit espérer que le Vatican continuerait de soutenir moralement et spirituellement Kiev. Vladimir Poutine se disant, lui, certain qu'une coopération constructive se poursuivrait entre la Russie et le Vatican. Et on va revenir après ce journal sur l'élection de Léon 14, édition spéciale à suivre avec nos invités. Et comme un symbole pour les Européens, ce pape a été élu le 8 mai 2025, journée de commémoration de la reddition de l'Allemagne nazie et de la paix en Europe. En tout cas pour les alliés, la Russie, elle commémore aujourd'hui la victoire soviétique sur les nazis. Vladimir Poutine s'exprimera tout à l'heure devant les troupes russes et les dirigeants d'une vingtaine de pays rassemblés sur la place rouge à Moscou. Au programme des célébrations, un défilé militaire pensé comme une démonstration de force, cette parade peine pourtant à masquer l'état réel de l'armée russe dans le contexte de la guerre en Ukraine, Franck Alexandre.
Plusieurs milliers de soldats sur la place rouge, avec des chars bien sûr et des lanceurs nucléaires les plus modernes. Devant la vingtaine de pays représentés, le défilé du 9 mai est toujours une arme de propagande. Pourtant, cet affichage peine à masquer les faiblesses structurelles de l'appareil militaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a perdu plus de 20 000 équipements lourds, dont 2 600 chars. La flotte de la mer Noire a subi de lourdes pertes, 20 bâtiments coulés ou endommagés, et l'aviation a également souffert. L'Ukraine est parvenue à mettre hors de combat près de 300 appareils, soit le quart des capacités disponibles au début du conflit. Mais grâce à son industrie exclusivement consacrée à l'effort de guerre, la Russie poursuit une remontée en puissance de ses armées et modernise son arsenal stratégique, à commencer par sa flotte de sous-marins nucléaires. Elle s'est aussi dotée de fortes capacités de production de drones et de munitions et parvient même à accroître le nombre de ses soldats, avec l'objectif vertigineux de porter bientôt ses effectifs à 1,5 million d'hommes, après en avoir perdu plusieurs centaines de milliers en Ukraine.
L'Ukraine, où les autorités locales des régions de Kherson et de Dnipropetrovsk déplorent ce matin 2 blessés dont des frappes de drones russes. Les forces russes ont assuré, elles, respecter strictement le cessez-le-feu de Vladimir Poutine, affirmant répondre à des violations ukrainiennes. Mieux se protéger face à la Russie, voilà le principal objectif du traité de coopération et de défense de Nancy, qui va être signé aujourd'hui entre la France et la Pologne. C'est le premier accord de ce genre que la France conclut avec un pays dont elle n'est pas la voisine directe. Dans l'actualité de ce vendredi également, l'Inde qui affirme ce matin que les forces armées pakistanaises ont lancé plusieurs attaques le long de la frontière occidentale de l'Inde dans la nuit, évoquant des attaques de drones repoussées. Islamabad n'a pas réagi pour le moment. En plus bref, au Mali, dans une déclaration hier soir, les partis politiques ont annoncé le report de leur manifestation prévue aujourd'hui, condamnant fermement, je cite, les manœuvres graves et irresponsable visant à provoquer des affrontements violents entre les Maliens lors de ce rassemblement. Déclaration qui intervient suite à la décision sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, de suspendre les activités des partis politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Décision dénoncée par Amnesty International. Allez, enfin, une star internationale aux 40 milliards d'écoutes sur les plateformes. Il sera demain au concert au Stade de France devant 80 000 personnes. DJ Snake et son Final Show. Concert, évidemment, à guichet fermé. Edmond Sadaka.
Ces 80 000 places du Stade de France se sont arrachées en quelques minutes à peine à l'ouverture de la billetterie en décembre 2023. Les fans qui ont réussi à décrocher le précieux sésame devraient assister ce samedi soir à un moment riche en émotions, car si DJ Snake l'a baptisé de Final Show, ce n'est pas par hasard, évidemment. Il affirme que ce sera très probablement son dernier concert en solo à Paris, car il estime avoir atteint la plus haute marche.
Si demain il y a un stade qui est plus grand que le Stade de France, je le ferai, mais on va tout le temps vers le haut. Je ne me verrai pas redescendre en gamme, même si c'est des salles que j'adore. En tout cas, pour mon projet solo DJ Snake, je voulais finir au top, un peu à la Zidane.
Une fois le concert du Stade de France terminé, la soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit, à quelques kilomètres de là, à l'Accord Arena de Paris, devant 20 000 spectateurs. Et là encore, les billets se sont envolés en moins de 5 minutes.
Turn down for what? Turn down for what?
DJ Snake en concert au Stade de France et qui est l'invité culture également d'RFI. Aujourd'hui, au micro, toujours d'Edmond Sadaka, 8h passées de 10 minutes ici à Paris. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquel-Rohem.
Merci, Jeanne Bartoli. À tout à l'heure.
Annuncio vobis, gaudium magnum. Habemus papam.
Je vous annonce une grande joie. Nous avons un pape, la formule rituelle hier soir, place Saint-Pierre, après l'apparition de la fumée blanche devant une foule en liesse pour annoncer l'élection de Léon XIV, 267e pape, Robert Francis Prévost, l'Américain, qui devient le premier États-Unien à prendre la tête du Saint-Siège. Alors, comment interpréter ce choix de la part des cardinaux dans un conclave qui aura duré à peine 24 heures, au regard aussi de l'héritage du pape François? Qu'attendre de ce pape? Et comment réagit-on à travers le monde? On en parle dans notre édition spéciale jusqu'à 7h, temps universel.
Édition spéciale sur RFI.
Et j'accueille tout de suite nos invités en studio à mes côtés. Bonjour Geneviève Delru.
Bonjour Julien.
Et heureux de vous retrouver, les auditeurs vous connaissent bien, puisque vous êtes ancienne journaliste ici à RFI. C'est vous qui avez créé l'émission Religion du Monde qui continue aujourd'hui. Avec nous également Père Bertrand Auville, bonjour.
Bonjour.
Prêtre dans le diocèse de Nanterre, merci d'être avec nous. Et bonjour Jean-Baptiste Noé.
Bonjour.
Historien, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous êtes aussi auteur de Géopolitique du Vatican aux éditions PUF. On va partir à Rome pour commencer et refaire le film de la soirée. Bonjour Nicolas Rocca.
Bonjour Julien.
Et merci d'être avec nous. Vous avez peu dormi puisque vous êtes notre envoyé spécial de Rome. Vous étiez place Saint-Pierre hier soir quand la fumée blanche est apparue.
Oui, et le calme ambiant autour de moi tranche avec le moment d'euphorie collective auquel j'ai pu assister hier soir. Là, sur l'avenue qui mène au Vatican, les visites de touristes sont en train de reprendre, presque comme si de rien n'était, presque. Car si on tend l'oreille, évidemment, on sent que Rome se réveille d'une nuit extrêmement spéciale. Sur le chemin pour venir ici, il y avait des Romains qui parlaient au téléphone de l'émotion qu'ils avaient ressentie hier ou regardaient des vidéos de la cérémonie des premiers mots de Léon XIV. Il faut dire que toute la ville a été un peu surprise de voir la fumée sortir blanche vers 18h. Bianca a commencé à résonner dans les rues tout autour du Vatican. Ce mot fumée blanche était presque dans toutes les langues. Il y avait des gens qui joignaient les mains en prière, d'autres proclamaient déjà Habemus Papam. Rapidement, on a eu la sensation que tout Rome allait envahir les lieux. Malheureusement, impossible évidemment pour tout le monde de vivre ce moment directement sur la place Saint-Pierre. Beaucoup ont regardé la cérémonie grâce aux écrans géants tout le long de la large avenue qui mène au palais. Il y a eu un moment de cohue, une attente assez longue d'une heure, et puis les portes du balcon se sont entrouvertes. Le protodiacre Dominique Mamberti a pu proclamer un Habemus Papam qui a enflammé la foule.
Et comment justement les fidèles, les Romains rassemblés sur cette place Saint-Pierre ont réagi à l'annonce du nom du nouveau pape?
Alors d'abord des cris de joie, Julien, mais tout de suite de l'incertitude des questions. Il faisait partie des papabilés, cette liste de potentiels favoris, mais ce n'était pas non plus l'un des 4-5 noms connus du grand public. Certains Italiens m'ont même demandé s'il était français. Il y avait autour de moi un membre de l'ordre des Augustins, auquel appartient Léon XIV, qui expliquait aux uns, aux autres, qui il était, ce qu'il connaissait de lui. Lorsqu'il est sorti à la loggia pour prononcer ses premiers mots en tant que pape, l'émotion était palpable. Et ce discours de continuité, il a salué par deux fois le pape François, mais aussi ce discours de paix, a résonné chez de nombreux croyants comme Brian Terry, un Américain.
Je suis très heureux parce que je fais partie de l'ordre des franciscains de l'expiation et que nous venons des États-Unis. Il a parlé de dialogue et de pont une vingtaine de fois. C'est exactement ce que nous faisons. Mais il a dit toutes les choses qui sont porteuses d'espoir. Il a parlé du Pérou. C'est vraiment là que l'Église se manifeste aujourd'hui, en Amérique du Sud. C'est dans l'hémisphère sud que l'Église est active. Il vient donc d'une seule Amérique. Il va du pôle nord au pôle sud et je pense que c'est un très bon choix dans ce sens.
Énormément d'enthousiasme, vous l'entendez, mais aussi de la prudence chez certains qui attendaient d'entendre plus longuement le nouveau pape pour comprendre quel serait son engagement auprès des pauvres, des minorités, quelle serait son approche sur les questions des abus sexuels dans l'Église. Plusieurs des grands chantiers qui attendent Léon XIV étaient déjà présents dans l'esprit des fidèles. Certains chercheront peut-être des réponses dans sa première messe en tant que pape. Elle aura lieu dans quelques heures, à quelques centaines de mètres de là où je me trouve, dans la chapelle Sixtine.
Merci Nicolas Rocca, et je me tourne vers vous Geneviève Delru. Qui est donc cet homme, Robert Francis Prévost, qui est donc devenu hier soir le pape Léon XIV?
Eh bien on peut dire que c'est un missionnaire qui est devenu pape. Pourquoi missionnaire ? Parce que, comme on le rappelait, il a passé une grande partie de sa vie religieuse au Pérou. D'ailleurs, quasiment dès qu'il est ordonné, il part au Pérou. Et là, ça va être un pasteur, un homme de terrain. Mmh. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs Mergoglio en quelque sorte, hein, l'Amérique latine, le terrain, etc. Bon. Et puis, après, il va effectivement avoir des fonctions diverses, mais c'est quand même essentiellement le missionnaire devenu pape. Mmh. Et ça, c'est très important. Donc, il aura nécessairement une pastorale, j'allais dire, d'accompagnement, un peu comme l'église hôpital de campagne telle que le voyait le pape François.
Et dans le même temps, il connaît bien la curie romaine.
Absolument. Et ça, c'est son deuxième atout. Et c'est peut-être ce qu'on n'en avait pas vu, parce que personnellement, moi, je ne pensais pas qu'il deviendrait pape. On n'avait pas vu qu'en effet, il connaissait très bien la Rome, la curie romaine. Et puis, surtout, le pape l'avait élu, donc oui. L'avait choisi, désigné, préfet de la congrégation pour les évêques. Donc, il avait une parfaite connaissance. Bon, ça remonte à 2013, c'est pas loin. Mais enfin, il avait quand même une parfaite connaissance de l'Église universelle.
Et c'est d'ailleurs sous le pontificat du pape François qu'on peut parler d'une ascension fulgurante. Peut-on parler d'une surprise ? Aujourd'hui, vous disiez que vous ne le connaissiez pas très bien.
Alors, pour les Vaticans, peut-être vraiment extrêmement pointu. Certains avaient pensé en effet à cette candidature, mais dans l'ensemble, quand même, disons-le, on parlait du cardinal Parolin, on ne parlait pas de lui.
Même question pour vous, Père Bertrand Auville, diriez-vous que c'est une surprise de manière générale? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Oui, moi j'ai été surpris et très heureusement surpris. Mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça déjoue tous les mécanismes qui peuvent avoir lieu où on aurait une tentation assez constante de plaquer notre vie politique mondaine, française, disons-le, sur la politique qui pourrait régner au Vatican. Et alors, il y aurait des candidats de gauche, des candidats de droite et ce serait la victoire d'un camp sur un autre. Et on voit bien que le pape actuel qui vient d'être élu casse les codes à bien des égards.
Il peut avoir représenté une forme d'intermédiaire entre ce qu'on appelle les conservateurs et les progressistes, pour le dire vite fait, entre les traditionalistes en tout cas et ceux qui sont plus ouverts, qui sont plus tournés vers une ouverture de l'Église.
Je parle avec prudence, mais je pense qu'il coche beaucoup de cases, comme Geneviève vient de le dire.
Et ce conclave qui présentait de nombreuses incertitudes, notamment sur la durée, avec un collège composé à 80% de cardinaux créés par le pape François et qui ne se connaissaient donc pas. On a beaucoup spéculé sur un conclave qui pourrait être complexe, plus long qu'à l'accoutumée. Finalement, il a fallu 24 heures, à peine, Geneviève. Seulement 4 tours, comme c'est Benoît XVI en 2005.
Exactement.
Ça nous dit quoi de ce qui a pu se passer en amont et pendant ce conclave?
Ça veut dire que probablement que les cardinaux, quand même, avaient déjà perçu dans sa personnalité ce qui pouvait correspondre au portrait robot du pape, et puis qu'il a dû probablement faire une communication, puisque c'est le principe des congrégations générales, très forte, et il est apparu probablement très rapidement comme un rassembleur et comme effectivement quelqu'un pour faire le pont entre les progressistes quand même qui existent et les conservateurs. Et moi je dirais qu'il y a du Benoît XVI chez lui et du François, c'est intéressant. Ne serait-ce qu'hier, quand il est apparu à la loggia, il était habillé comme Benoît XVI.
Et non
il
pas avait... comme François qui
Exactement.
Était dans une simple...
Il avait revêtu les vêtements pontificaux classiques, et ça, à mon avis, c'était un signal, enfin, moi je le perçois comme ça, aux plus conservateurs en disant, voilà, vous inquiétez pas, la doctrine, je veillerai quand même.
L'autre chose qui rend cette élection particulière, c'est que ce pape est le premier à être né aux États-Unis, et c'est là que nous partons. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Il est très tôt, très tard, je ne sais pas, chez vous à Washington, au un milieu. Peu plus de 2h du matin. Et cette élection de Léon XIV fait forcément beaucoup réagir aux États-Unis.
Oui, parce que un pape américain, c'est la première fois que ça arrive. Et si ce n'est jamais arrivé auparavant, c'est peut-être aussi parce qu'on se disait que deux chefs d'État, c'est ce qu'est le pape finalement, c'est peut-être beaucoup de poids ou de pouvoir pour un pays aussi puissant que les États-Unis. Mais il y a manifestement quelque chose qui s'est débloqué dans l'Église depuis une bonne quarantaine d'années maintenant, depuis Jean-Paul II. Il n'y a plus de pape italien comme cela avait longtemps été le cas. Alors pourquoi pas un Américain? Surtout que Léon XIV n'est pas seulement Américain, il est aussi naturalisé péruvien parce qu'il a longtemps exercé son ministère au Pérou. C'est d'ailleurs là que le pape François, qui était argentin, l'a repéré. Vous avez d'ailleurs peut-être noté que lors de son premier discours, il s'est exprimé en italien et en espagnol, mais pas en anglais, peut-être pour ne pas insister sur son côté américain. Quoi qu'il en soit, C'est une surprise. Les médias américains sont allés interroger sa famille, ses frères, mais aussi ses anciens camarades de classe. Tout le monde est quand même un peu étonné, évidemment. Tout le monde cherche à en savoir plus sur sa personnalité et sur ses opinions dans ce pays qui est divisé, fracturé et polarisé. Ce que l'on sait déjà, c'est que manifestement, il ne partage pas les opinions de l'administration Trump sur les questions d'immigration. Il l'a dit directement et assez clairement sur les réseaux sociaux en citant, par exemple, nommément le vice-président Jelly Vance pour lui dire qu'il avait tout simplement tort sur son interprétation de la doctrine catholique. Malgré cela, il a été félicité par l'exécutif et par Donald Trump qui parle de l'honneur et de l'excitation d'avoir un premier pape américain.
Et il dit qu'il a hâte de le rencontrer. Guillaume Nodin à Washington, merci. On va vous retrouver un peu plus tard pour parler notamment des réactions des cercles trumpistes et des conservateurs. Jean-Baptiste Noé, on parle donc d'un pape qui est américain, états-unien, mais un peu le moins américain de tous les américains des cardinaux. Il a passé une grande partie de sa vie donc au Pérou, dont il a la nationalité. On se demandait beaucoup si le prochain pape serait de nouveau européen ou s'il viendrait à nouveau du Sud, voire du continent africain. Finalement, on peut parler d'un pape d'équilibre géographique aujourd'hui.
Oui, moi je retiens qu'il est surtout romain, parce qu'il a fait ses études à Rome. Il a été ordonné prêtre à Rome. Il a travaillé pendant une dizaine d'années à Rome comme étant le chef de l'ordre des Augustiniens. Et ensuite, il a dirigé le dicastère pour les évêques, qui est un dicastère extrêmement important, puisque c'est lui qui est chargé de nommer les évêques, enfin de repérer les évêques et de les nommer à travers le monde. Donc c'est un homme qui conjugue à la fois la capitale, Rome, et les zones périphériques, les banlieues, si on peut dire. Et c'est ça qui est très intéressant dans son profil, et c'est ce qui, probablement, ce qui a intéressé. C'est qu'on a à la fois un homme de gouvernement qui est au cœur du système de gouvernement romain, et un homme qui connaît très bien les zones plus périphériques.
Et donc qui sera capable de réconcilier, en quelque sorte, là où le pape François était plus tourné vers les périphéries, de réconcilier, en quelque sorte, la curie et les périphéries.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi un homme qui a un doctorat en droit canonique. Alors c'est extrêmement important le droit canonique parce que l'Église est une structure juridique qui repose sur le droit canonique. Il y a un gros travail à faire aussi en interne en matière de droit et ça c'est aussi un profil intéressant. J'étais à Rome en février et plusieurs acteurs au moment où le pape était malade me disaient il nous faudra un canoniste comme prochain pape. Ouais. Et là on a bien un canoniste.
Cette élection a été suivie en tout cas dans les pays du Sud. On va en visiter quelques-uns à présent, à commencer par le Brésil, premier pays catholique au monde avec 182 millions de baptisés. Bonjour Sarah Cozzolino.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Avec nous ce matin à Rio de Janeiro, comment les Brésiliens réagissent-ils à ce choix ?
Eh bien, c'est un choix qui a l'air de faire plutôt l'unanimité au Brésil. Je me suis rendue à la cathédrale de Rio peu après l'annonce du nouveau pape américain et j'ai rencontré des fidèles venus prier pour Léon XIV, mais aussi de curieux et des touristes venus voir cette institution de Rio avec sa belle structure pyramidale. Et les gens avec qui j'ai échangé étaient plutôt surpris de ce choix, mais aussi pleins d'espoir. Alors surpris parce qu'ils s'attendaient plutôt à un pape européen ou alors un philippin ou un africain, et pleins d'espoir parce que Léon XIV semble finalement suivre la ligne de François, qui est très apprécié ici. J'ai notamment discuté avec Clésio, un touriste catholique venu du nord du Brésil.
Comme il est nord-américain, on aurait pu penser que ce serait un pape conservateur. Mais comme c'est quelqu'un qui soutenait la doctrine sociale de François et qu'il a aussi la nationalité péruvienne, je pense qu'il pourra diriger son regard vers l'Amérique latine et les peuples plus pauvres.
Un pape qui prône l'amour, l'inclusion, le dialogue entre les peuples, voilà ce qu'attendent les Brésiliens. Mais aussi un pape qui rapproche la religion des nouvelles générations. Car même si 70% des Brésiliens se considèrent comme chrétiens, l'Église catholique perd du terrain au profit notamment de la foi évangélique.
Merci Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro pour RFI. On partira tout à l'heure sur le continent africain puisque les Africains se demandaient si le prochain pape serait de chez eux. Et puis il y a un autre continent qui a peut-être cru à une première, l'Asie, avec l'un des noms qu'on a vu beaucoup revenir dans les listes de papabilis, celui du cardinal Taglay des Philippines. Et c'est à Manille qu'on vous retrouve justement, Nemo Lecoq-James, bonjour.
Bonjour Julien.
Aux Philippines, le troisième plus grand pays catholique du monde, comment la population accueille-t-elle le nouveau pape Léon XIV ?
Eh bien, cette nomination était assez surprenante ici à Manille. Hein. Depuis quelques jours, la population se préparait à voir un cardinal philippin sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. Mais à la sortie des églises ce matin, les Philippins ne sont pas pour autant déçus. Au contraire, ils accueillent avec joie ce nouveau pape. Après, il faut savoir que même avant le conclave, très peu de fidèles disaient avoir une préférence pour un cardinal en particulier. En fait, le pays est de toute façon profondément attaché à l'église et à Rome. Les Philippins ont toujours su accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, chacun des papes. Alors c'est plutôt sur les réseaux sociaux hein, qu'une petite déception se fait ressentir ces derniers jours. Énormément de vidéos de soutien, de messages d'amour circulés pour le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire de Manille, et qui aurait été le premier pape asiatique de l'histoire.
Et quelles sont les attentes des fidèles envers ce nouveau souverain pontife ?
En fait, les Philippins accordent beaucoup d'importance à la manière dont l'Asie sera prise en compte par le Vatican. C'est d'ailleurs pour cela que les fidèles ici aimaient énormément le pape François. Selon eux, c'était un pape des périphéries qui tendait la main à tous les continents, à tous les milieux sociaux. Et aujourd'hui, il semble avoir beaucoup d'espoir en le pape Léon. C'est un pape qui a une large expérience pastorale hors Europe, dans les Amériques, mais aussi en Afrique et en Asie. Et il se trouve même qu'il connaît déjà les Philippines, car il est déjà venu plusieurs fois dans le pays.
Nemo Lecoq James aux Philippines pour RFI, merci beaucoup. Parler des réactions, on l'a entendu, c'est évidemment parler des attentes. On peut déjà partir du principe, Geneviève Delrue, que Léon XIV sera de nouveau un pape tourné vers les périphéries, c'est ce qu'on commençait à évoquer.
Oui, et c'est même probablement pour ça qu'il a... Enfin, on peut supposer que ce tropisme-là, il l'avait et que François a compris qu'il l'avait, et ne serait-ce que par sa pratique pastorale. Mmh. Oui, donc ce sera effectivement un pape tourné vers les périphéries. En cela, il sera effectivement le pape progressiste, on va dire, mais il sera aussi probablement un pape peut-être plus conservateur, en tous les cas plus... On le voit, hein, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, la façon dont il est apparu au balcon.
Ouais.
Peut-être que sur les questions doctrinales, il mettra probablement la pédale douce.
Et il y a quelque chose d'important à regarder, c'est le choix qu'a fait Robert Francis Prévost de s'appeler Léon XIV. C'est un choix qui a son importance, Père Bertrand Auville. On considère souvent le dernier Léon en date, Léon XIII, mort en 1903, comme le pape de la réconciliation avec la modernité et surtout de la doctrine sociale de l'Église. Ça dit quelque chose du programme, entre guillemets, si j'ose dire, du nouveau pape ?
On peut l'imaginer et le souhaiter. Le pape Léon XIII, c'est à la fois la doctrine sociale de l'Église, vous le disiez, c'est-à-dire l'interprétation de la modernité à l'aune des évangiles et l'incarnation des évangiles dans la modernité. C'est aussi le pape pour nous Français en tout cas, du ralliement de l'Église à la République, c'est-à-dire de la prise en compte qu'il n'y a pas de régime politique parfait, mais que les chrétiens doivent investir pour la bonne cause les différents régimes qui peuvent être ceux du monde. Mmh. Et je pense que ça, c'est aussi un signe d'un pape qui pourra dialoguer avec le monde, jeter ses ponts dont il évoquait l'existence. Rappelons quand même que le pontife, pardon du latin, ça fait toujours pédant, mais ouais. Ça veut dire jeteur de pont.
L'un des indicateurs intéressants à regarder ce matin, c'est la présence en ligne de ce nouveau pape. Car Léon XIV, quand il était encore évêque puis cardinal, s'est beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux. C'est le premier pape dont on peut dire ça. Il a pris position notamment sur les politiques anti-immigration de Donald Trump, sur les questions de racisme aux États-Unis. Et je me tourne à nouveau vers vous, Guillaume Nodin. L'élection de ce nouveau pape fait déjà réagir du côté des conservateurs américains et des sphères trumpistes.
Oui, la magasphère, si vous voulez, hein, Make America Great Again, a très bien compris que le pape Léon XIV, puisque c'est son nom maintenant, eh bien, n'était pas en ligne avec ses propres idées sur le tournant que devrait prendre éventuellement le catholicisme aux États-Unis. Steve Bannon, qui est lui-même catholique, l'ancien et actuel d'ailleurs conseiller politique de Donald Trump, lui, il avait un petit peu, et il faut quand même le signaler, il avait un petit peu anticipé le fait que peut-être ce nouveau pape, Robert Francis Prévost, pourrait être élu. Il l'a dit dans une vidéo il y a très peu de temps, il disait qu'il en avait peur parce que ça se rapprocherait de ce que il appelait un fake pope, c'est-à-dire un faux pape, comme il accusait le pape François de l'être. Et eh bien finalement, il a encore, parce que c'est pas la première fois, il a encore vu assez clair dans ce qui allait se passer. Et puis, je suis obligé de vous signaler que Laura Loomer, vous savez qui c'est, Julien, Laura Loomer, c'est l'influenceuse d'extrême droite et d'ailleurs volontiers islamophobe, qui est très connue et très écoutée par Donald Trump. Eh bien, elle a exécuté, si je peux dire ça comme ça, le nouveau pape en deux mots: pour elle, c'est un pape marxiste et woke.
Voilà, merci Guillaume Nodin. Pape marxiste et woke, il y a peut-être une part d'exagération. En tout cas, Jean-Baptiste Noé, on peut dire que, une fois de plus, les conservateurs, une certaine partie des conservateurs ne vont pas apprécier ce nouveau pape.
Oui, après, on verra ce qu'il dit. Là, on a les outrances d'influenceuses. Vous savez, je ne sais pas non plus quelle est leur influence réelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est plutôt la dynamique du catholicisme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier groupe religieux. Les protestants sont premiers, mais ils sont fragmentés. Les catholiques américains, ce sont aussi les médias, c'est aussi le premier financeur du Vatican, hein, en termes de finances. Et donc, avec des finances qui sont rouges au Vatican, donc ça va compter. Et c'est aussi un point important en matière de médias, en matière de formation, en matière de revues également et d'université. Donc c'est tout ce monde-là qui est présent, qui est représenté avec le nouveau pape. Après, il peut y avoir des élucubrations du moment des uns et des autres. Enfin bon, ça, moins de poids et moins d'incidence.
Alors on va voir justement ce qu'on peut attendre.